Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Le professeur Jean-Claude Sherman a été le premier au monde à identifier le virus du sida il y a maintenant 27 ans, avec son équipe de l'Institut Pasteur. Puis, il a été aussi le premier au monde à trouver le talon d'Achille de ce virus en 1990. Demain, peut-être, grâce à ses recherches actuelles, il sera en mesure de proposer le premier vaccin. Tout le monde doit connaître cette histoire, car cette histoire, c'est son histoire et c'est un message d'espoir. Espoir pour les malades du sida, et ce n'est pas rien, mais aussi pour tous les hommes qui doivent se battre pour réaliser leurs rêves. Jean-Claude Sherman, petit-fils d'émigré, n'aurait jamais dû faire des études, mais il rêvait de sauver l'humanité et il n'a jamais renoncé. Pourtant, ce découvreur du virus du sida fut aussi l'oublié du prix Nobel de médecine en 2008. Comment un chercheur si brillant pouvait-il être ainsi écarté d'un prix qui récompensait sa découverte faite avec son équipe dans son laboratoire? Bonjour Jean-Claude Sherman.
Bonjour.
Dans le livre intitulé « Tout le monde doit connaître cette histoire » que vous avez écrit avec le journaliste Olivier Galzi, vous racontez vos batailles d'enfants, d'étudiants, de chercheurs. Vous allez à l'essentiel pour nous faire comprendre comment vous vous êtes retrouvé au cœur d'une des plus grandes découvertes médicales de notre époque. Alors, revenons un instant sur votre petite enfance et votre jeunesse, Jean-Claude Sherman. Vous êtes né en 1939. Le drame de la déportation a déchiré votre famille. Malgré le travail acharné de votre mère, vous avez connu la misère. Comment avez-vous réussi à suivre un cursus scolaire et universitaire normal? Alors, quand j'appelle normal, c'est collège, lycée, bac, fac de sciences.
Oui, effectivement, je suis petit-fils d'émigrés, comme vous venez de dire. Mes parents se sont rencontrés à Paris, d'ailleurs, mariés très jeunes. Tous les deux sont nés en 1920. Ils se sont même rencontrés, vous savez, sur les bords de Marne, dans une guinguette.
C'est joli, ça.
Chez Gégène.
Avec des petits airs, oui. Les petits airs de musique.
Et donc, ils se sont mariés et ils ont eu deux enfants. Moi-même, qui est le premier, c'est pour ça que je commence par moi, et puis mon frère Alain. Mais si vous voulez, mes grands-parents sont partis avec les frères et sœurs de mon père et ont été donc exterminés dans les camps nazis. Mais du fait que mon père soit marié à une catholique, lui n'est pas parti. Mais moi, je les ai vus partir, j'avais 4 ans. Hein.
Parce que votre mère était catholique,
oui.
Parce qu'elle était d'origine espagnole.
Oui, elle était catholique, mais si vous voulez, la famille de mon père était une famille tolérante, puisqu'ils ont accepté une catholique comme épouse d'un de leurs fils, vous voyez. Donc,
oui, qui étaient des émigrés russes.
Voilà. Et donc, mon père, hein, après le départ, disons, de tout le monde, s'est mis à jouer aux cartes. Et donc, ma mère est partie avec ses deux fils. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la famille, disons, de ma mère, dans un village de Seine-et-Marne. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, j'étais dans une famille, disons, très pauvre, mais avec un grand-père qui travaillait beaucoup. Et puis, donc, je suivais l'école communale classique. Et en suivant cette école communale classique, dans ces petits villages, même de Seine-et-Marne, pas très loin de Provins, eh bien, l'objectif, c'était que cette école-là devait être la première au certificat d'études du canton.
Donc on présente les meilleurs éléments.
Voilà. Et donc, si vous voulez, cet instituteur avait eu ma mère comme élève. Enfin, toute la famille était passée, disons, dans les mains de cet instituteur. Et donc, effectivement, j'étais quelqu'un qui devait représenter le canton, etc., au certificat d'études. Mais voilà, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de 12 ans, ma mère a une situation un peu meilleure, décide de me reprendre dans la région parisienne. Donc, je reviens à Paris. Et à Paris, si vous voulez, là, c'est pareil, je rentre à l'école communale, donc je redouble le CM2. Enfin, oui, ça doit être le CM2. Et puis, l'instituteur, enfin, j'étais bon. Et l'instituteur qui est de Paris dit, d'abord, il m'imaginait assis au pied des arbres, en train de lire.
romantique, scientifique et romantique.
Alors que ce n'était pas ça du tout. Quand mon grand-père, quand je revenais de l'école, il fallait effeuiller les haricots, il fallait les faire sécher, enfin, il fallait l'aider dans les champs.
Travailler.
Ouais, travailler, quoi. Bon, donc. Et c'est là qu'il a convoqué ma mère en disant « Madame, j'aimerais bien que votre fils rentre en sixième. Il faudrait qu'il passe le concours de sixième. » Elle ne savait pas ce que c'était, elle ne savait pas ce que c'était qu'un cours de sixième dans toute la famille. Ouais. Et donc, je suis allé m'inscrire tout seul au lycée Condorcet. On habitait dans le 18e, hein, donc je suis allé m'inscrire tout seul au lycée Condorcet. On m'a dit « Vous voulez faire de l'allemand ? Oui. Vous voulez faire du latin ? Oui. » On m'aurait dit du chinois, j'aurais dit « Oui. » etc. Et donc, je me suis inscrit. Et je suis rentré en sixième, donc au petit Condorcet, à Paris. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ma mère travaillait quand même beaucoup. Elle travaillait la journée comme coupeuse. Coupeuse, c'est-à-dire pour couper les vêtements, quoi, vous voyez. Et le soir, elle était ouvreuse au théâtre. Et moi, ça m'a permis d'avoir une culture théâtrale extraordinaire.
Oui, parce qu'elle vous emmenait.
Ah ben, j'allais de temps en temps, puis je voyais que 5, 6... En plus, c'était à l'Athénée, c'était au théâtre Louis Jouvet.
Oui.
Et c'était Louis Jouvet.
C'était
donc, vous voyez, donc j'ai vu vraiment...
une période.
Ah oui, oui, j'ai vraiment vu... C'est pour ça que je suis très difficile maintenant quand je vais voir une pièce de théâtre. Donc, ceci se passe et les difficultés financières reviennent. Et là, elle me dit un jour, écoute Jean-Claude, j'y arrive plus, il faut que tu travailles. Et donc, elle me dit, voilà, j'ai une relation, je peux rencontrer un imprimeur, on va aller voir un imprimeur, il est d'accord de te prendre comme typographe. Et donc, j'arrive voir cet imprimeur avec ma mère et tout, il parle, qu'est-ce que tu fais ? Et on est au mois de mai, et c'est là que je lui dis, bon, je passe le brevet dans 15 jours, quoi. Brevet d'études.
Oui, le BEPC.
Oui, mais c'était un peu plus haut niveau que celui de maintenant. Vous voyez,
c'est certain.
Et ça s'appelait le brevet d'études, je crois.
Oui, brevet des écoles.
C'est là que je suis tombé sur un monsieur intelligent qui a dit, mais on n'est pas un mois près, madame, laissez-le passer son brevet, il vaut mieux qu'il ait un bagage que rien du tout, mais je le prendrai. Et c'est comme ça que, si vous voulez...
C'est comme ça que nous devons à votre instituteur d'abord et à cet imprimeur anonyme votre découverte du virus du sida. Je vais dire comme ça.
Ça m'a permis de continuer. Et effectivement, à partir de ce moment-là, la sonnette d'alarme avait été tirée. Je ne voulais plus être dépendant de la situation financière de ma mère.
Donc, vous avez vendu des saucisses et des frites.
Voilà. Donc, j'ai été travailler dans les fêtes foraines, les samedis, dimanches, et je vendais des saucisses frites, des moules, etc.
Des barbes à papa, enfin... Ouais. Les rêves de tous
non,
les
non,
enfants.
Pas les barbes à papa. Je restais toujours dans la restauration, frites, sandwich, frites, moules, jambon, enfin, vous voulez.
Ça vous a permis de pas trop mal vivre, tout en enfin, financièrement parlant, j'entends.
Oui, ça m'a permis
de faire vos études.
Voilà.
D'aller jusqu'à la fac.
Complètement.
Alors là, au moment où vous entrez à la fac, vous faites connaissance avec de grands personnages, le professeur Jacques Monod et Marcel Reynaud, parce que c'est eux qui ont contribué à vous orienter vers la rétrovirologie. Qu'est-ce que la rétrovirologie ? C'est une science balbutiante dans les années 60-70,
ouais,
je crois.
Je viens vous faire une anecdote. Pourquoi rentrer dans une science qui est balbutiante, qui naît, qui se dit cela ? Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc j'étais déjà à l'Institut Pasteur de Garches, dans le service de Marcel Reynaud. Et dans les fins de l'année 67, mi-67, Georges Maté, de cancérologie, l'Institut de cancérologie à Villejuif, passe dans le laboratoire pour, disons, juger le passage INSERM d'une chargée de recherche à directeur de recherche. Et puis mon patron, Marcel Reynaud, lui parle en lui disant « Mais qu'est-ce que... où on en est, dans la possibilité d'un virus dans les leucémies humaines, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et donc, c'est le terme de rétrovirus va arriver, vous voyez. Et donc, Georges Maté dit « Oui, on a vraiment des suspicions et des possibilités du matériel de pouvoir isoler un virus dans les leucémies humaines. Mais pour ça, il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de purifier, concentrer, titrer, etc. » Et c'est là que Marcel Reynaud, d'un génie, dit « J'ai ce monsieur. » Et ce monsieur, c'était Jean-Claude Sherman. Donc, il me fait venir devant Georges Maté. Et il dit à Georges Maté, parce que je revenais d'un cours à Uppsala, ce qu'on appelle l'Embo Summer School, l'European Molecule. Oui, c'est ça. Et donc, il me dit, oui, il a toutes les nouvelles techniques de purification, concentration, etc. Donc, c'est votre homme. Donc, à ce moment-là, Georges Maté, le lendemain, m'a envoyé son assistant, Claude Jasmin. Non, ça veut dire que, vous voyez,
c'est pas du hasard.
Si les gens décident de vous proposer un travail et de voir comment ça se passe, Donc avec son assistant, on a commencé à travailler là-dessus. Et on a commencé à travailler sur les rétrovirus de souris. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rétrovirus ? Alors ce qui est très amusant, parce que Jacques Monod, lui, a inventé le dogme. Le dogme, c'est l'ADN donne de l'ARN, donne des protéines.
D'accord. Et le rétrovirus, c'est dans un désordre.
Non, le rétrovirus va autrement. Tous les virus qu'on connaissait, c'était soit des virus à ADN, qui utilisaient le même chemin, ADN, ARN, protéines, soit des virus à ARN, qui prenaient le chemin ARN, protéines. Et le rétrovirus, c'est un virus à ARN, mais qui va passer de l'ARN à l'ADN,
oui.
Donc aller à l'envers,
oui,
va
c'est
des
ça,
rétro,
c'est ce que je voulais dire,
va
en
des
désordre,
rétro, vous voyez,
oui, oui.
Et en allant à l'envers, si vous voulez, après il s'intègre au génome de la cellule et il devient ADN, ARN, protéines. Vous voyez ? Donc, virus qui va à l'envers. Et là, il y a encore une très belle histoire. Donc, en 67, je démarre pour essayer d'avoir un virus des leucémies humaines. Et en travaillant sur des souris, et si vous voulez, il se passe quelque chose de très important à nouveau. C'est aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, si vous voulez, en 1965, Kennedy avait dit... En 69, on sera sur la Lune. Et effectivement, en 69, les Américains ont marché sur la Lune.
Et à ce moment-là, Nixon avait dit...
Et Nixon a dit, en 70...
En 70,
En
oui.
75, la leucémie sera vaincue. Et il crée ce qu'on appelle le Special Rice Cancer Program, c'est-à-dire un programme énorme. Quand vous allez sur la Lune, on met énormément d'argent. Et là, il a mis un programme énorme. Et il a créé un laboratoire zone protégée. Et je suis allé dans ce laboratoire. C'est-à-dire, j'ai fait 2 ans dans ce laboratoire. À Bethesda, à côté de Washington.
Et c'est là que vous avez connu le professeur Robert Gallo, qui était rétrovirologue.
Je l'avais déjà connu à Paris. Oui, je l'avais déjà connu à Paris déjà
oui.
avant. J'avais
enfin,
connu
vous l'avez
oui.
travaillé avec
mais
lui.
Non.
Bon.
Il avait ces deux laboratoires différents. J'ai eu d'autres personnes.
Mais il était, excusez-moi, rétrovirologue comme vous.
Oui,
c'est
absolument,
ça.
Absolument. Donc, bien sûr, je suis dans ce programme et pour vous dire que ce programme, bien sûr, la leucémie n'a pas été vaincue, mais ce programme a été énorme. Énorme. Pourquoi ? Parce qu'il a permis la découverte de la reverse transcriptase, c'est-à-dire l'enzyme qui permettait au génome du virus ARN de passer par l'ADN, mais il a permis la description ou la création de la biologie moléculaire. C'est-à-dire grâce à cette enzyme, on pouvait, en prenant un ARN messager, faire aller au génome, faire le piège des gènes, etc. Donc, naissance de la biologie moléculaire. Donc, 2 prix Nobel, Temin et Baltimore, qui ont eu pour la reverse transcriptase. Puis en même temps... Comme les rétrovirus étaient connus pour donner des tumeurs chez l'animal, eh bien, en même temps, ces rétrovirus ont piégé des gènes qui étaient des gènes cancérigènes et c'est devenu les oncogènes, c'est-à-dire la naissance des oncogènes. Et là, ça a été encore, si vous voulez, 2 autres prix Nobel qui ont permis à Varmus et Bishop d'obtenir le Nobel, tout en oubliant un autre qui était Dominique Stellin, qui était un Français, bon, etc. Mais ceci dit, et c'est pour ça, j'ai été un peu long à répondre à votre question, mais ceci dit, pour vous dire que dès que la biologie moléculaire était née, dès que les gènes du cancer étaient nés, il suffisait d'introduire le gène du cancer dans une partie du rétrovirus, de faire une transfection, et ça transformait la cellule, c'est-à-dire ça la cancérisait. Donc, on n'avait plus besoin de rétrovirologues, puisqu'on avait tout ce qu'il fallait. Donc, je reviens à l'Institut Pasteur. C'est là l'intelligence de Jacques Monod. Je reviens à l'Institut Pasteur et je lui dis, voilà. Alors, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Travailler sur les agents antiviraux ou sur les rétrovirus ? Je lui dis, écoutez, moi, je veux continuer à travailler sur les rétrovirus. Donc, il me dit, bah, écoutez, ça, comme l'Institut Pasteur vient d'être transformé en département, on va vous associer au département de virologie et donc associé à Montagnier. Donc, je vois Montagnier et je lui dis, voilà... Je reviens de Bethesda, j'avais un laboratoire à l'Institut Pasteur, j'ai encore du matériel et...
On pourrait monter quelque chose d'intéressant.
Voilà. Et Montagnier me dit, moi, j'ai pas de place. Donc, il n'avait pas de place pour moi. Et c'est comme ça que j'ai eu un laboratoire indépendant. Donc, Monod m'a donné des pièces indépendantes, mais j'étais quand même rattaché administrativement.
Oui.
Donc, ceci dit, la rétrovirologie qui avait été quelque chose de balbutiant, qui est quelque chose qui a apporté énormément de découvertes, comme je vous disais, la reverse transcriptase et les oncogènes, eh bien, il restait plus que 2 rétrovirologues dans le monde, Sherman à Pasteur
et
Gallo
aux États-Unis.
Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas le hasard, si vous voulez, qui nous a permis à tous les deux de nous confronter, de nous affronter, de tout ce qu'on veut en ce qui concernait la découverte du virus du sida.
Bien sûr, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est au moment où les années sida commencent à se faire malheureusement jour que la rétrovirologie aussi va éclater. C'est drôle cette concomitance.
C'est une concomitance et ce n'est pas un hasard. Ça fait longtemps, si vous voulez, tous les modèles animaux qu'on connaissait, souris, chats, chiens, bœufs, singes, avaient des rétrovirus qui leur provoquaient des tumeurs. L'homme était exceptionnel, il n'avait pas de rétrovirus qui donnait quelque chose. Le point le plus intéressant, ça a été que dans le sida, si vous voulez, la cellule qui disparaissait, que le virus tuait, eh bien, c'était la même que le virus immortalisait dans les leucémies. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que l'idée a été de dire,
oui,
c'est peut-être un rétrovirus. Vous voyez la spécificité. Et c'est comme ça qu'on a travaillé.
Mais oui, puisque le sida, en fait, est une maladie qui détruit les défenses des malades jusqu'à la mort, un rétrovirologue peut expliquer le fonctionnement de cette maladie.
Parce que, si vous voulez, à l'époque, seuls les rétrovirus étaient spécifiques d'une cellule type.
Oui, je comprends.
Alors que l'herpès, il va dans n'importe quelle cellule, si vous voulez, mais le rétrovirus avait besoin d'un récepteur, et maintenant un co-récepteur, pour entrer dans cette cellule.
Alors, maintenant, on va penser à cette année incroyable, 1988. C'est une année capitale pour vous, Jean-Claude Sherman, parce qu'on a deux mots-clés à retenir, URMA et non-progresseur. Alors, l'URMA, c'est votre laboratoire, parlez-nous-en, à Marseille. Et les non-progresseurs, c'est encore une merveilleuse découverte que vous avez faite.
Alors, je crois que là encore, il n'y a pas un hasard. Je décide de partir de l'Institut Pasteur en 1988. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le virus changeait continuellement. Il changeait d'un individu à un autre et il changeait chez le même individu. Donc toute la voie vaccinale telle qu'elle était prise par l'Institut et les autres laboratoires
ne pouvait pas du tout convenir.
Et ne pouvait pas aboutir à un succès. Ça, c'est la première chose. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait travailler cette voie-là et pas d'autre moyen de travailler ça à l'Institut Pasteur. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, on n'avait pas de modèle animal. Le chimpanzé, c'est moi qui avais mis le virus aux États-Unis dans le chimpanzé, le chimpanzé s'infecte, mais ne fait pas de maladie. Donc aucun intérêt, c'est exactement comme les tubes ou les cellules de culture in vitro. S'il ne fait pas de maladie, on met le virus. Si le virus se développe, aucun intérêt. Et ça coûtait cher pour faire des essais. Le macaque, lui, fait un sida, mais un sida en 6 mois. Donc il n'avait rien à voir avec l'homme. C'est clair ? Donc je ouvre mon unité de recherche URMA, c'est-à-dire unité de recherche rétrovirus et maladies associées à l'INSERM, à Marseille. Et là, devant ces deux vérités que je viens de vous annoncer, je me suis dit comment je vais travailler et sur quoi. Et c'est là, en 1988, si vous voulez, j'ai encore une petite idée de génie, si vous voulez.
Oui.
Bon, si on peut dire
ça
comme ça.
Mais ça, c'est la recherche.
On peut dire ça comme ça. Je me suis dit, si j'étais séropositif, qu'est-ce que je ferais ? J'irai voir mon généraliste. Et mon généraliste, lui, qu'est-ce qu'il fait ? S'il voit que les défenses dégringolent, il envoie à l'hôpital. S'il voit que les défenses reste stable, il garde. Vous voyez, il garde.
Oui, il maintient avec des médicaments de confort.
Non, même pas, rien du tout.
Que le moral.
Voilà.
Il soigne le moral.
Et alors, c'est là que je me suis dit, mais il y a deux populations. Il y a une population qui va à l'hôpital et une population que le généraliste garde. Et j'ai donc fait le racket. J'ai donc téléphoné, demandé qu'on m'envoie les patients pour prendre le sérum et les cellules et d'étudier pourquoi certains étaient résistants, c'est-à-dire, j'allais dire, ne progressaient pas vers malade. Ça, c'était la première chose. Alors, je me suis dit, bon, il y a deux populations, une qui progresse et une qui ne progresse pas. Ça, c'est clair. La deuxième chose, il me fallait une définition de la non-progression. Et là, cette définition, je l'ai eue, mais encore un coup de génie, si vous voulez. C'est que si on regarde à partir du CDC, le Center for Disease Control ou l'OMS, si vous voulez, pour avoir un sida, lorsqu'on faisait la courbe entre la naissance du sida et l'apparition du sida chez 50% des personnes, voyez, il s'écoulait 10 ans. C'est-à-dire qu'en 10 ans, 50% des personnes infectées faisaient ou avaient fait un sida. Et donc, la plupart des statisticiens disaient qu'il suffit de prolonger encore 10 ans pour que 100% fassent un sida. Vous voyez ? Or, en réalité, c'était un plateau. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui développaient un sida et d'autres qui ne développaient pas.
C'est-à-dire que ça n'évoluait pas du tout comme ça.
Donc, j'avais défini, j'appellerais non-progresseur une personne infectée par le VIH, par le virus du sida, et qui ne développera pas la maladie au moins pendant 10 ans. Vous voyez ?
Alors, vous allez découvrir en 1990 ce que vous allez appeler le R7V. Alors, c'est pour les non-progresseurs qui auraient une protection naturelle face au virus. Qu'est-ce que c'est que ce R7V ?
Alors, c'est pas comme ça. C'est un peu ça, mais c'est pas comme ça. L'idée a été la suivante. Donc, je vous disais tout à l'heure, tous les virus changent, ils changent continuellement.
Oui, variabilité totale.
Totale. Et donc, si on voulait faire un vaccin aujourd'hui, il y a 33 millions de personnes infectées, donc il faudrait mélanger 33 millions de virus. Donc là, on ne sait pas ça. Donc, je me suis posé la question de me dire, mais qu'est-ce que je peux trouver de commun
à tous ces gens dont, pour
à
lesquels
tous ces
la maladie...
virus.
À tous ces virus.
Ben oui, parce
mais
que...
à tous ceux pour lesquels le virus n'a pas flambé aussi.
Non, pas comme ça. Il fallait trouver quelque chose de commun à tous les virus sur lesquels on puisse prendre ce quelque chose de commun pour en faire un vaccin. Et pour en faire
progresseur
un...
ou non progresseur.
Voilà, pour le moment, d'accord. C'était ça. Et donc, je me suis aperçu quand le virus, un rétrovirus, quand il sort de la cellule, il bourgeonne. Il bourgeonne, comme un bourgeon qui va exploser bientôt, puisque le printemps est là. Et lorsque le bourgeon explose, c'est le virus qui sort. Donc, mais, si vous voulez, le bourgeon se fait à travers la membrane cellulaire, et ce virus va emporter des antigènes cellulaires. C'est-à-dire, pour rester simple,
oui.
Quand je vais rentrer à l'académie, enfin, ou si je suis visiteur et que je veux rentrer à l'académie, on va me donner un badge. On me donne un badge. Donc ce badge, il me permet d'entrer. Et il me permettra de sortir aussi. Bon, le virus, lui, il prend un badge en sortant de la cellule. Vous voyez ? Prenons un badge. Eh bien, tous les virus que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, depuis 20 ans, depuis 88, ont ce badge. Donc je me suis dit, si je bloque le badge, je ne peux pas rentrer à l'académie. Hein, tout à l'heure.
Le virus du sida ne peut flamber qu'en ayant utilisé
son badge pour entrer dans la cellule.
Soit le badge marche, soit le badge ne marche pas.
Voilà. Si le badge marche, il peut rentrer dans la cellule et faire son dommage. Si le badge est bloqué...
C'est un non-progresseur.
Voilà. Alors non, c'est un non-progresseur, c'est-à-dire que chez les non-progresseurs, il y a des anticorps qui bloquent le badge.
Oui.
Donc à ce moment-là...
Ça, c'est une découverte extraordinaire.
Absolument, absolument. Alors donc, si vous voulez, j'en ai fait ce qu'on appelle un test ELISA. C'est-à-dire que j'ai pris le badge et j'ai voulu savoir, parmi 100 séropositifs, combien il y avait de personnes protégées. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la solution de dire que dans la population HIV infectée chez les... en France, par exemple chez nous, 25% sont des non-progresseurs. C'est-à-dire 25% ont des anticorps protecteurs. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, donc on fait ce test. Et pourquoi il est important ce test ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus comme en 1996. En 1996, dès la découverte des antiprotéases, on a dit on va traiter tout le monde tout de suite, accident de préservatif, on traite, piqûre, on traite, enfin, etc. Et on s'aperçoit aujourd'hui que de traiter tout le monde tout de suite, les gens sont effectivement ne font pas la maladie, mais vont mourir d'effets secondaires. Et deuxièmement, apparition de virus résistants. De virus résistants au virus. Donc aujourd'hui, si vous voulez, depuis un an et demi, il est décidé de ne plus traiter tout le monde tout de suite. Donc on va attendre que les défenses dégringolent un petit peu et on va traiter ceux que les défenses dégringolent pas, on ne traite pas. Vous voyez ? Donc moi, si vous voulez, nous allons apporter ce qu'on appelle un test qui va permettre aux cliniciens de compléter sa gamme de tests en disant « Ah, il a des anticorps anti-RCV, c'est-à-dire des anticorps protecteurs, on peut reculer la date de traitement. Il n'a pas d'anticorps protecteurs, il faut le traiter tout de suite. » Vous voyez ? C'est clair ? Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme vous dites, espoir, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on ne va plus traiter tout le monde tout de suite.
Oui.
Et je crois que c'est clair, hein, oui, vu le nombre de personnes. N'oubliez pas que j'ai 22 ans de recul.
Oui.
C'est-à-dire j'ai commencé en
88. Oui, ça fait une génération.
Donc, voilà. Donc vous voyez que je vois ceux qui vont très bien.
Donc on voit que ça résiste, cette idée de R7V. Oui. Très bien.
Ensuite, la deuxième chose, c'est ce que nous voulons faire, c'est de préparer un anticorps thérapeutique. Ça veut dire quoi ?
Oui.
C'est-à-dire ceux qui ont
in vitro.
Oui. Ceux qui ont un anticorps, ils sont protégés. Donc ceux qui n'en ont pas, ils ne sont pas protégés. Donc pourquoi ne pas mettre l'anticorps chez ceux qui ne sont pas protégés ? Donc on est en train de faire synthétiquement, on a pris le gène des lymphocytes B, des non-progresseurs, pour l'introduire dans un système de production. Et la troisième chose, bien sûr, c'est si vous avez un antigène, d'en faire un vaccin. Et là, on veut faire deux vaccins. Un vaccin thérapeutique, parce que l'anticorps, on ne pourra pas...
Vous pourrez le développer.
Oui. L'anticorps thérapeutique, on le développe, mais on n'en aura pas assez pour traiter tout le monde. Donc il va falloir faire comme on fait pour l'hépatite B, c'est-à-dire commencer à donner l'anticorps pour que le virus disparaisse et que les défenses remontent, et après de prendre le relais par le vaccin thérapeutique, comme on fait pour l'hépatite B. Et de l'autre côté, on prépare un vaccin prophylactique. Pourquoi différent ? Parce qu'un vaccin pour le VIH doit faire deux choses. il doit protéger dans le sang, mais il doit aussi protéger dans les muqueuses. Donc il faut que ce soit une forme orale de vaccin, qui est un cycle. Donc il faut un vecteur vivant, et ça, un vecteur vivant, on ne peut pas le mettre chez des individus immunodéprimés.
D'accord, donc voilà. C'est un espoir énorme que vous présentez.
Tout ça est en route.
Bah. Oui, et alors, il faut de l'argent, non, pour tout ça?
Voilà, il faut de l'argent. Et il faut de l'argent. Et puis, je me suis aperçu, parce que n'oubliez pas quand même que je viens de vous dire en quelques mots que j'ai passé 25 ans de ma vie à l'Institut Pasteur, 13 ans à l'INSERM, ça fait 38 ans, que depuis 10 ans, j'avais créé cette société Urma et qu'effectivement, il faut des fonds. Mais ce que je ne savais pas, et je commence à être un peu spécialiste, d'être un nouveau businessman, je ne le suis pas.
Vous êtes un commis voyageur pour aller chercher un peu d'argent
partout. Pas forcément
partout.
Commis voyageur, mais ce que je ne savais pas non plus, c'est que l'industrie, si vous voulez, l'industrie biologique, elle a ses problèmes. C'est-à-dire, on ne prend pas le gène, on le met comme ça, et ça y est, on va faire 20 000 litres. Il y a des contraintes de température, il y a des contraintes d'agglomération, d'agglutination. Enfin, on a pris un peu de retard. On a pris du retard, qui n'est pas volontaire, mais il faut quand même le savoir. Donc, c'est pour ça que je ne donne plus de date. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, tout à l'heure, vous disiez, oui, vous êtes un oublié du Nobel. C'est vrai. Et là, ça met les doutes dans la tête des investisseurs. Est-ce que je n'ai pas raconté du blabla depuis le début en disant que j'étais un déco-découvreur, oui, je ne suis pas récompensé? Donc, ce n'est pas uniquement une histoire d'argent personnel, c'est une histoire de reconnaissance. C'est une histoire de reconnaissance, donc
oui,
bien
pour
sûr. Moi, ça m'aiderait beaucoup plus aujourd'hui pour lever des fonds. Parce que là, c'est pareil, quand vous prenez un an de retard, on peut dire, ah, ça se trouve, il nous a inventé cette histoire, elle n'est pas vraie, vous voyez. Parce que n'oubliez pas que la plupart des investisseurs, tels que ceux que j'ai eus, ont aussi plongé dans l'histoire Madoff, là, enfin...
Vous avez créé Urma aux États-Unis.
Non, ici,
mais
la plupart
ici,
des gens...
Mais ici, à Marseille, mais aussi aux États-Unis.
On a
J'avais
aussi,
cru comprendre que vous aviez dédoublé votre entreprise.
Non, c'est surtout en Suisse qu'elle est maintenant, à Bâle. Mais on travaille surtout avec les États-Unis. C'est-à-dire, si vous voulez, je n'ai pas envie de refaire ce qu'on a fait avec le test de dépistage HIV au début. Au début, on a travaillé chez nous, puis on a voulu aller aux États-Unis. Et que les États-Unis ne voulaient pas de nous, donc il a fallu qu'on fasse un procès. Donc
oui,
là, ce que je veux faire...
Inutile.
Moi, je préfère faire tout dans les normes américaines, passer par la Food and Drug Administration. Et comme ça, si vous êtes reconnu là-bas, vous serez reconnu partout. Vous voyez, enfin, ça, c'est un peu le système que je veux faire. Voilà.
Bien sûr, c'est la clé pour les découvertes et les recherches, les États-Unis. Parlons un petit peu de ce Nobel, de cette blessure.
Moi, je ne dirais pas comme ça. Enfin, j'avoue, il y a deux choses dans cette histoire de Nobel. D'abord, je crois que le Nobel, c'est quelque chose qu'un scientifique rêve et pense que c'est inaccessible. Ça, c'est les deux mots-clés. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir revoir dans les années maintenant et pour les prochains Nobel, le mode d'attribution. Parce que de laisser trois personnes, de faire la norme des trois personnes... À l'époque actuelle, on n'est plus à l'époque de Marie Curie qui prenait sa brouette, allait chercher de la terre, regarder s'il y avait un produit dans son jardin. À l'époque de maintenant, c'est quand même l'Internet, c'est un travail en équipe, c'est beaucoup de choses. Donc, de dire c'est que trois personnes, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. La deuxième chose, c'est que le prix Nobel a été attribué 25 ans après la découverte et il a été divisé en deux. Un pour le papillomavirus.
Oui, c'est pour le cancer de l'utérus.
Oui. Et deux, le HIV. Donc, il y a une personne pour le papillomavirus. Il n'y avait plus que deux places pour le HIV. Oui. Donc, on a éliminé Sherman. Je ne sais pas pourquoi. Et malheureusement, j'ai voulu le savoir. Mais on m'a répondu que les décisions du comité Nobel ne sont découvertes que 50 ans après. Donc, dans 50 ans, ça me fera une belle jambe. Si je peux m'expliquer
alors,
ainsi,
de savoir. Les lauréats furent votre patron administratif,
oui, et mon
professeur
assistant.
Montagnier,
oui.
Et votre assistante, celle que vous avez formée, qui s'appelle Françoise Barré-Sinoussi. Vous avez été quand même suffisamment marquant pour que le président Sarkozy veuille vous récompenser. Et vous avez eu une récompense exprès. De sa part,
oui,
il y a
deux choses. J'ai rencontré deux fois. La première fois, effectivement, il connaissait l'histoire, enfin, et il estimait que je devais avoir une reconnaissance de la nation. Donc, il m'a donné cette reconnaissance de la nation, ce qui est très important. Deuxièmement, il m'a fait officier de la Légion d'honneur. Mais il y a tout un rattrapage à faire, parce que Luc Montagné est grand officier, Françoise Barré est commandeur, et je n'étais que chevalier, donc il m'a fait officier. Bon, ceci dit, et il a fait un discours magnifique. C'est-à-dire que pour lui, effectivement, on était trois, les trois mousquetaires, enfin que vraiment, c'était une injustice énorme, et qu'il veillerait à ce que, enfin, auprès du gouvernement suédois, ou même à ce que vraiment le mode d'attribution soit un petit peu...
À l'avenir,
autrement. Oui. Voilà, ça c'est la première chose. Ceci dit, j'ai quand même été content. Je me suis battu, vous savez, pour que la découverte reste française. Je le décris assez bien dans ce livre, je pense.
Oui, donc, ça c'était quand même ce que ça apporte comme argent.
Oui, ça c'était donc, si vous voulez, que effectivement j'ai été content de ça. Donc, que ce soit Françoise et Luc Montagné, bon, ça c'était une de mes succès. Ceci dit, qu'un comité fasse une bourde comme ça 25 ans après, je trouve ça un petit peu ridicule. Et troisièmement, moi j'ai un grand programme. Enfin, heureusement que je ne suis pas resté à l'Institut Pasteur à regarder mon nombril et à dire je suis le découvreur du virus. Oui.
Et pourtant, vous avez gardé l'esprit pasteur.
Ah, non, l'esprit pasteurien, ça je l'ai forcément. C'est, vous savez, on ne passe pas 25 ans de sa vie à l'Institut Pasteur et même dans un service comme celui de Marcel Reynaud sans être pasteurien. À Pasteur, on vous apprend à trouver votre argent. On vous apprend à faire une recherche médicale directement applicable pour l'homme.
C'est-à-dire et à transmettre, on vous apprend à transmettre.
Et après, à former. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'assez important et d'avoir cet esprit-là. Et ensuite, l'autre esprit, c'est une recherche médicale, mais pour tout le monde. Donc, j'ai quand même fréquenté pas mal les instituts pasteurs d'Afrique et j'ai vu ce que ça voulait dire. Vous voyez,
parlons un peu du cas de l'Afrique.
Voilà. Donc, j'ai vu un peu ce que ça voulait dire et ça me permet, si vous voulez, aujourd'hui, de vouloir associer mes découvertes avec l'Afrique. Quoi, voilà.
Alors, comment ça se passe là-bas? Dans votre livre, vous dites qu'il y a plus de non-progresseurs chez nous. Il y a 50% de non-progresseurs. Comment ça se passe?
Voilà. Si on suivait le schéma un petit peu de à quoi on pouvait s'attendre en Afrique, si je vous refais le calcul de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, 50% sont morts. Au bout de 20 ans, 100% devraient être morts.
Et ce n'est pas du tout le cas, heureusement.
Et quand on va en Afrique, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Alors que, normalement, si le virus avait été uniquement la cause de la mort des lymphocytes, enfin la mort des défenses, on devrait s'attendre à 100%. Ceci dit, avec ce que j'ai découvert, c'est-à-dire qu'il y a toute une population de non-progresseurs, il s'est passé une étude qui m'a ouvert complètement les yeux, parce qu'en allant à la Food and Drug Administration, avec cette histoire du badge et du test, les scientifiques américains m'ont dit « Écoutez, c'est bien beau, votre histoire, mais on aimerait que vous fassiez une étude en fonction de l'ethnie. » C'est-à-dire, aux États-Unis, on a X ethnies. Et donc, on aimerait donc que vous fassiez une étude, trois études. La première dans la région de Floride, la deuxième dans la région de New York, et la troisième dans la région de San Francisco, Los Angeles. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes répartitions de population. Ensuite, en fonction de l'ethnie, donc on a étudié les Caucasiens, les Indiennes natives, les Hispaniques, les Haïtiens, les Afro-American Black, et puis, il m'en manque un, les Asiatiques. Et on s'est aperçu que 50% des Blacks avaient des anticorps protecteurs. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que dans nos régions,
en Occident,
c'était
25%.
Et c'est à peu près la même chose pour les Whites, enfin pour les Blancs et les Caucasiens, enfin disons les Hispaniques, et Asiatiques et Indiennes natives. À peu près aux États-Unis, c'est de 20 à 25%. Par contre, les Haïtiens, c'est 35%. Et les Noirs américains d'origine africaine, 50%. Donc on a vérifié. En Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Zaïre et au Cameroun. On a fait quelques sérums et on a vu qu'effectivement, la population des non-progresseurs, ceux qui avaient des anticorps protecteurs, étaient autour de 50%. Donc ça, pour moi, ça a été hyper intéressant. C'est-à-dire, c'est un petit peu... Et ça, je veux le vérifier. C'est-à-dire que dès que le test va être prêt...
C'est très important.
Dès que le test va être prêt, c'est une proposition que j'ai faite à M. Douste-Blazy, qui s'occupe actuellement... des fonds tirés de 1 euro, des billets de transport, disons à lunettes, et que j'ai rencontré, qui est d'accord, dès qu'on a à peu près le nombre de kits, il va donc financer toute cette étude, disons, en Afrique. Moi, j'y vois deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'en Afrique, on ne traitera plus au hasard et que ceux qui sont riches, on pourra traiter que ceux qui en ont besoin. Vous voyez, ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, ça permettra d'expliquer pourquoi les orphelins du sida. C'est-à-dire, pourquoi ceux qui... que ces gosses ne vont pas attraper le virus.
Ils voilà. devaient être sacrifiés et ils ne le sont pas.
Ils ne l'ont pas parce que la mère a transmis des anticorps protecteurs, enfin, etc. Vous voyez, il y a énormément de choses qui peuvent s'expliquer par la suite. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et dès qu'on va avoir un petit peu le kit approuvé ou refait, parce que tout ce que je veux le faire, non pas pour prendre l'Afrique comme cobaye, mais d'avoir été accepté d'abord par la Food and Drug Administration pour aller, c'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on aurait fait chez nous, ce qu'on fait en Europe, ce qu'on va partout. Mais je pense que l'urgence est beaucoup plus en Afrique qu'ici.
Oui.
Pour le moment.
Oui. Et c'est ça, l'Institut Pasteur aussi. Et j'étais très touchée par toutes ces trouvailles, ces découvertes et par l'esprit par lequel vous l'avez fait. Et je vous en remercie beaucoup. Au revoir, Claude Sherman.
Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette prestigieuse maison. Là aussi, chaque fois que je passe sur le quai, j'en rêve.
Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme.